Vous écoutez, on lit pour vous.
Les enseignants en francisation en ont très gros sur le cœur. Un texte de Sarah Champagne, paru le 23 octobre 2024 dans Le Devoir. Outré, dégoûté, jeté à terre, en colère. Les émotions sont fortes pour les enseignants en francisation qui ont subi de nombreuses fermetures de classe en octobre 2024. Sortant de leur réserve habituelle, plusieurs racontent l'impression d'un échec de toute la société au-delà de la perte de leur emploi, comme l'exprime l'enseignante Valérie Fortier. Des centaines de classes de francisation ont été ou sont en train d'être annulées en cours d'année dans les centres de services scolaires. Dans certaines régions, comme en Estrie et en Abitibi, des écoles de francisation ferment tous leurs services. Le ministre québécois de l'Immigration, Jean-François Roberge, a évoqué mardi des enjeux financiers pour expliquer ces fermetures, se défendant de franciser moins d'immigrants cette année. C'est en fait un changement dans les règles budgétaires qui est à l'origine de cette situation. Le réseau scolaire est responsable d'environ 40% des cours de francisation, le reste étant sous la gouverne du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, MIFI. Ce sont 159 enseignants qui sont touchés, dont 113 perdent carrément leur emploi du côté de la Fédération des syndicats de l'enseignement, FSE-CSQ. Je n'ai jamais vu ça. C'est très drastique, a affirmé au Devoir son président Richard Bergevin. La Fédération autonome de l'enseignement a pris connaissance jusqu'à maintenant d'au moins 73 fins de contrat, et ce, sans compter Montréal. Le sentiment qu'on partage, tous, est d'abandonner nos élèves, dit Valérie Fortier. À quelques semaines de son accouchement, elle a appris qu'elle perdrait son emploi au Centre Saint-Michel à Sherbrooke le 4 novembre. Le nombre de groupes passera de 28 à 5 à cette même date. Dany Rousseau, lui, a déjà perdu son emploi au mois d'août 2024 à 48 heures d'avis. Des 10 groupes qui existaient au Centre de formation continue des Patriotes à Deux-Montagnes, seuls 3 ont été lancés en septembre. En janvier 2025, il pourrait ne pas y avoir de groupe du tout, les enveloppes financières annuelles étant en train de s'épuiser après ce qu'il appelle des restrictions sauvages, injustifiables et incohérentes. Un sentiment de perte plus large. Oui, il y a notre job qu'on perd, mais il y a une tristesse plus profonde qui nous fait dire que le Québec fait vraiment une grosse erreur et que notre société va payer pour ça, ajoute Mme Fortier. Un sentiment partagé par plusieurs de ses collègues de Sherbrooke, mais aussi à travers le Québec. Au téléphone, Vincent Vachon raconte la déchirure incroyable que représente pour lui quitter son équipe, mais aussi d'avoir dû annoncer devant ses étudiants que dans 2 semaines, c'est fini. Les larmes ont coulé sur ses joues et sur celles de ses étudiants. On les a recrutés, on leur a demandé de quitter leur emploi, ou même leur profession, leur famille, leurs amis. On leur a dit que ça leur prendrait le français pour devenir résident permanent. C'est ceux-là qu'on abandonne aujourd'hui. Ils pensent à un étudiant qui est soudeur la nuit, mais qui ne manque pas un seul cours. Il arrive en uniforme avec ses lunettes de protection. C'est très important pour lui car il ne veut pas rester en marge. Ce sont parfois des personnes peu scolarisées qui suivent des cours en alphabétisation et francisation. Ce sont les plus vulnérables de tous, relate une enseignante de la région de Québec qui a demandé l'anonymat car elle n'est pas autorisée à parler publiquement. « Je me sens dégoûtée, impuissante. Je ne comprends pas ce qui se passe », reprend cette femme. Décalage. Ce sont les élèves les plus motivés du monde, souvent des gens surqualifiés, indique Victorine Michalon. Elle perd quant à elle son emploi au Centre d'éducation des adultes à Outremont, à Montréal, qui francise environ 400 personnes par année. Selon les nouvelles règles budgétaires, les centres de services scolaires doivent retourner au nombre d'étudiants de 2020-2021, une année pandémique caractérisée par un niveau historiquement bas d'immigration. Son centre n'accepte donc plus de nouveaux étudiants. On coupe le robinet et donc, de session en session, l'effectif total va se réduire et on nous condamne à fermer, ajoute Mme Michalon. Comme tous ses collègues à qui le devoir a parlé, elle en veut au décalage entre le discours politique et la réalité. La loi 96 prétend imposer le français 6 mois après l'arrivée des immigrants. Mais comment ça va se passer? C'est délirant quand on y pense, poursuit-elle. Rediriger. Interrogé à nouveau sur les problèmes en francisation, le ministre Roberge a affirmé à plusieurs reprises que les élèves touchés seraient réorientés en priorité vers d'autres cours. Environ 35 000 personnes figurent déjà sur la liste d'attente de Francisation Québec, le portail unique créé en juin 2023, et les délais ont augmenté compte tenu de l'explosion de la demande. Certaines régions restent à découvert, puisque le MIFI n'y donne présentement aucun cours, par exemple les Basses-Laurentides, affirme Dany Rousseau. Ils vont les prendre où, les profs et les locaux? Demande Mme Michalon, déplorant du même souffle un démantèlement de cours qui fonctionne. Tous craignent la perte d'expertise à terme, y compris les syndicats, indique M. Bergevin de la FSE-CSQ. Il n'y a pas d'indice laissant croire que le MIFI puisse prendre la relève, dit-il, alors que la FSE estime qu'environ 100 groupes seront formés dans les 2 prochaines semaines. Les enseignants consultés parlent tous des centres de services scolaires comme de milieux de vie où les immigrants bénéficient aussi d'autres services. Ils sont généralement passés par une période d'incrédulité, tout comme certaines directions qui ont tardé à faire tomber le couperet pensant que « les choses allaient s'arranger », dit Dany Rousseau. Plusieurs parlent maintenant de mobilisation, manifestation, lettres aux élus, pétitions, pancartes, et s'organisent sur les réseaux sociaux. On veut dire au gouvernement « faites marche arrière, il n'est pas trop tard », souligne quant à lui Vincent Vachon. C'était « Les enseignants en francisation en ont très gros sur le cœur », un texte de Sarah Champagne, paru le 23 octobre 2024 dans Le Devoir.
Le luxe d'occasion s'installe au 10-30. Un texte de Nathaëlle Morissette, paru le 30 octobre 2024 dans La Presse. Ce qui aurait été difficile à imaginer il y a 10 ans est devenu réalité. Une friperie s'installe au quartier 10-30. Une décision d'affaires qui confirme l'élargissement de la clientèle pour les produits de seconde main. C'est tendance, les friperies. Au cœur même de ce qui peut être considéré comme le royaume de la consommation, une friperie de luxe communautaire vient de faire son nid. Au quartier 10-30, à proximité d'enseignes comme Aldo, Banana Republic ou encore H&M, la voûte accueille ses clients dans un décor léché où brillent des marques comme Canuck, Michael Kors, Hugo Boss et Gucci. Cette friperie, géré par un organisme communautaire, se spécialise dans le luxe. Et comme magasiner des vêtements d'occasion serait une tendance qui gagne de plus en plus en popularité, particulièrement chez les jeunes, la voûte pourrait ouvrir d'autres succursales si la formule fonctionne bien. Selon le baromètre de l'Observatoire de la consommation responsable, publié en novembre 2023, 43,5% des Québécois achètent des produits de seconde main. Ça pue? C'est laid? Je vais y aller si j'ai besoin d'un déguisement d'Halloween. Ces remarques à propos des friperies, Frédéric Côté, directeur général du complexe Le Partage, un organisme qui a pour mission d'assurer la sécurité alimentaire aux familles de la Rive-Sud les a entendus plus d'une fois. Mais ici, on est ailleurs. On est dans les tendances, lance-t-il d'emblée, en accueillant la presse dans un local de style industriel au plafond haut et au plancher étincelant quelques jours avant l'ouverture officielle. Les manteaux de fourrure, les bottes d'hiver joliment placées, les présentoirs de jeans classés de façon impeccable, force est de constater que la voûte n'a rien de l'image typique d'un bazar ou d'un marché aux puces. Ici, on n'a pas établi de fourchette de prix. Tout dépend du type de vêtement, de la marque et de la qualité du produit. Lors de notre passage, des manteaux de fourrure affichaient un prix de 200 $. Mais est-ce un peu inusité comme décision d'ouvrir une friperie à Brossard dans un méga-centre commercial comme le 10-30? Si l'arrivée de la voûte à cet endroit peut paraître inattendue, elle est pourtant loin d'être le fruit du hasard, assure M. Côté. En mettant sur pied une formule boutique axée sur le luxe et le style, il souhaite détruire certains mythes, attirer des gens qui n'auraient jamais mis les pieds dans une friperie de style caverne d'Ali Baba, ou encore des clients qui ne portent habituellement pas de vêtements d'occasion. Dans ce magasin, où travailleront une douzaine d'employés, on souhaite charmer une clientèle de jeunes âgés de 18 à 34 ans. C'est tendance, les friperies. Les gens ont de plus en plus une conscience environnementale. Les ados adorent ça. Arriver au 10-30, ça nous permet d'aller chercher de la notoriété, affirme pour sa part Mélanie Blouin, responsable des communications. C'est ensuite plus facile d'exporter le concept vers d'autres communautés. Et on est arrivé exactement au bon moment. Les gens de Carbonne-Léo voulaient une friperie au 10-30, affirme Frédéric Côté. Pourquoi le 10-30 a-t-il dit oui? Pour la petite histoire, au début de l'année 2023, les représentants du complexe Le Partage ont sondé Carbonne-Léo, société de développement immobilier qui gère le quartier 10-30 à Brossard et également le Royal Mount, centre commercial regroupant de nombreuses marques de luxe. Ils avaient en main une carte de visite, comme se plaît à raconter Frédéric Côté. L'organisme a présenté à Carbonne-Léo des plans et des esquisses élaborés par le designer Denis Bourgeois afin de prouver le sérieux de sa démarche. L'idée, c'était justement d'éliminer la barrière de la perception qu'on peut avoir d'une friperie. Friperie de luxe. La réponse ne s'est pas fait attendre. Ça a été oui tout de suite, lance fièrement M. Côté. Selon Nicolas Desourdis, président et associé de Carbonne-Léo, le vêtement seconde main, de façon générale, c'est une industrie qui s'est réorganisée au cours des dernières années. Elle a pris de l'ampleur. Ça s'appelle Quartier 10-30. On veut vraiment mettre l'action sur la vie de quartier complète. Donc, on a une offre pour tous, dit-il, ajoutant dans la foulée que la qualité de l'aménagement intérieur, peu importe le type de commerce, fait partie de la vision globale de Carbonne-Léo. Le local de 1115 mètres carrés, 12 000 pieds carrés, occupé auparavant par deux serres, servira à la fois de boutique et d'entrepôt pour la voûte. Pour le moment, un premier tri est effectué dans un centre situé à Candiac où l'organisme reçoit des dons. On reçoit des vêtements avec des étiquettes. La personne achète ses vêtements neufs en ligne. Elle les reçoit et si elle n'aime pas ça ou que ça ne fait pas, elle va nous les donner, explique le directeur général de l'organisme. Tous les profits engrangés par les ventes de vêtements, d'accessoires et d'articles de décoration iront directement au complexe Le Partage, qui s'autofinance actuellement à 77 %. Tous les profits servent à financer nos services d'aide alimentaire, souligne M. Côté. On veut augmenter notre revenu autonome. Éventuellement, les gens pourront venir déposer leurs dons dans de grosses boîtes de bois à l'intérieur même du magasin. On va être le premier arrêt au 10-30, se plaît à dire Frédéric Côté. Si vous amenez un sac à linge, vous ne voudrez pas le traîner partout. Vous allez venir ici en premier. Vous entrez. Vous allez dire « Wow! » Et là, vous allez magasiner, dit-il avec un sourire dans la voix. Vous écoutez, le luxe d'occasion s'installe au 10-30, un texte de Nathaël Morissette, paru le 30 octobre 2024 dans La Presse. Qui magasine dans les friperies en 2024? La clientèle des friperies n'a jamais été monolithique, mais elle est plus diversifiée que jamais, à l'image des friperies elles-mêmes, qui sont en transformation. À quand remonte cet élargissement de la clientèle? Quand le seconde main a commencé, c'était pour les pauvres. Point à la ligne. C'était pour aider les pauvres. Détail, Marie-Claude Masson, directrice marketing et communication pour les magasins Renaissance. Ça a évolué. Il y a ensuite eu la tendance vintage, qui avait une cible plus jeune. Au fil des crises économiques, des gens viennent vers le seconde main, poursuit-elle. Ils découvrent qu'il y a du beau, qu'il y a du propre, du portable. Une partie de cette nouvelle clientèle reste. Aujourd'hui, les jeunes, 14 à 22 ans, sont aussi friands des fripes, selon Marie-Claude Masson. On imagine qu'après, quand ils commencent à gagner leur vie en entrant dans le marché du travail, ils délaissent un peu le seconde main, mais ils vont revenir. Ça fait partie de leur mode de consommation. Pourquoi va-t-on dans les friperies? Les valeurs de consommation sont désormais une importante raison pour se tourner vers les friperies, ce qui a contribué à l'élargissement de la clientèle. Dans un sondage mené par Renaissance en janvier 2023, on apprend que c'est toujours le désir de payer moins cher qui motive d'abord la clientèle. Mais le besoin de réduire son empreinte écologique est la deuxième raison invoquée. Presque la moitié, 46 % des clients fidèles à Renaissance, ceux qui ne magasinent usagés que dans les magasins de cette chaîne, ont un revenu familial entre 35 000 et 75 000 $, alors que 37 % ont un revenu supérieur à 75 000. Pourquoi les friperies attirent-elles une nouvelle clientèle? Il y a un tabou qui commence à être brisé et on commence à changer la manière dont on voit les friperies, explique Laurence Godin, professeure de sociologie de la consommation et de l'alimentation à l'Université Laval. Si cette transition peut se faire, poursuit-elle, c'est aussi parce que les friperies changent elles-mêmes. On le voit dans la manière dont les organismes fonctionnent, ajoute la professeure Godin. Si on suit leur page Facebook, on voit de belles photos d'ensemble à la mode, avec une image léchée, un bon marketing. Il y a clairement une transformation. Est-ce que le client de la friperie magasine aussi ailleurs? L'environnement d'achat s'est tellement transformé qu'on peut très bien aller chez H&M, Zara, Shane et en même temps aller chez Renaissance, dit Laurence Godin. Et ça dépend quelle est la préoccupation du client, précise la professeure. Si c'est le prix, autant parce qu'on a des considérations financières que pour le plaisir de payer pas cher, Ça fonctionne autant chez H&M que chez Renaissance ou au Village des Valeurs. Renaissance, qui a sondé sa clientèle, confirme qu'elle va aussi magasiner ailleurs, dans une large proportion. Personne n'est exclusif, tranche Marie-Claude Masson. La hausse d'intérêt pour les vêtements d'occasion peut-elle mener à une réduction de la consommation? C'est un grand point d'interrogation, répond Laurence Godin de l'Université Laval. Est-ce que se lancer dans la consommation de vêtements usagés est une porte d'entrée vers une transformation plus générale du mode de vie? C'est possible. C'est entrer dans la logique de l'économie circulaire. Selon le baromètre de la consommation responsable, publié en novembre 2023, 44 % des Québécois qui ont réduit leur consommation ont acheté des produits de seconde main. Selon Laurence Godin, il ne faut pas rêver en couleur non plus. La hausse de popularité des friperies ne mène pas à une réduction de la popularité de la « fast fashion », ces vêtements pas chers et souvent de mauvaise qualité que l'on achète et jette rapidement. Il y a beaucoup de vêtements neufs ou de vêtements de mauvaise qualité, des vêtements qui circulent très vite dans les friperies, dit-elle. C'est déjà un signal que les gens vont acheter et jeter. Envoyer ça au conteneur de la friperie ou à la poubelle, dans le processus symbolique, je ne suis pas convaincue qu'il y ait une si grosse différence. Outre le fait que l'on se sente plus à l'aise avec sa conscience. Combien de vêtements se retrouvent à la poubelle au Québec? En 2021, 17 000 tonnes de bottes et chaussures ont été éliminées, selon Recycle Québec. L'organisme a calculé dans son étude de caractérisation des matières acheminées à l'élimination qu'un total de 292 000 tonnes de textiles a été éliminé cette année-là. Les vêtements représentent 28 % de cette masse, la plus grosse partie provenant des textiles d'utilisation domestique ou commerciale. C'était « Le luxe d'occasion s'installe au 10-30 », un texte de Nathaël Morissette paru le 30 octobre 2024 dans La Presse.
Réflexion sur l'engagement politique et l'étiquette militante. Un texte de Léa Lacroix paru le 4 novembre 2024 dans Le Devoir. Je suis militante depuis maintenant 4 ans. Pour certains, cela peut sembler peu, je l'accorde. Mais en 4 ans, j'ai eu le temps de découvrir la réalité du militantisme et de voir la complexité de l'engagement politique au-delà des slogans et des convictions. Quand on choisit de s'investir dans un parti ou dans un mouvement, on se retrouve instantanément étiqueté. On devient l'allié des uns, l'opposant des autres. Cette étiquette, elle colle à la peau, comme une sorte de certificat d'appartenance. Ces étiquettes ne sont pas forcément mauvaises en soi. Elles contribuent même à former le bassin militant d'un parti, cette grande famille où chacun trouve sa place. Pourtant, comme dans toute famille, il existe des non-dits, des incompréhensions et des tensions. Ces étiquettes ont un pouvoir singulier. Elles peuvent devenir des barrières qui limitent l'échange, des cases dans lesquelles on nous enferme sans nous donner la chance d'exister au-delà des idées préconçues. Quand je parle d'étiquette militante, je ne remets pas en cause le besoin d'avoir des idéaux et des valeurs propres. Je ne nie pas non plus la beauté du militantisme, cette passion commune qui rassemble des personnes autour de causes partagées. Mais j'observe que, bien souvent, ces étiquettes finissent par figer les interactions et empêcher les dialogues plus ouverts. Combien de fois a-t-on hésité à parler avec un militant d'un autre parti par crainte d'être mal perçu ou de ne pas être compris? Au début, j'étais moi-même tenté de réduire les autres à leurs convictions politiques. Je peinais à comprendre comment on pourrait un jour militer ensemble malgré nos désaccords. Comment des personnes avec des visions si différentes pourraient-elles unir leurs forces dans l'espace politique? N'était-ce pas en contradiction avec les principes mêmes de l'engagement? Mais avec le temps, j'ai découvert qu'au-delà de leurs divergences, ceux-ci partageaient des motivations sincères, des valeurs profondément ancrées, des idées chères pour lesquelles chacun s'engageait. Les gens qui s'impliquent en politique le font souvent pour répondre à des préoccupations réelles, pour apporter des solutions à des problèmes qui les touchent directement. Et je suis convaincu qu'au-delà de leurs étiquettes, on pourrait trouver bien plus de points communs qu'on ne le pense entre ces personnes. Que se passerait-il si, au lieu de nous définir uniquement par nos divergences, nous choisissions de construire sur ce qui nous rassemble? Si nous laissions de côté, ne serait-ce qu'un instant, les conflits de partis pour reconnaître la part d'humanité et de sincérité qui existe dans chaque engagement politique? Évidemment, je ne me fais pas d'illusions. Nous ne vivons pas dans un monde de contes de fées où tout le monde s'entendrait à merveille, et c'est tant mieux. Les débats et les différences d'opinion enrichissent notre démocratie. Ce qui me dépasse, cependant, c'est la haine et la méfiance qui se transmettent d'un parti à l'autre, souvent sans fondement. Cette hostilité m'épuise, me démotive parfois. Qui mieux qu'un autre militant peut comprendre ce que signifie défendre une cause qui nous tient à cœur? Et pourtant, la haine persiste, étouffant parfois jusqu'à notre capacité à dialoguer, à construire ensemble. Ce que je souhaite, ce n'est pas un monde où l'on gommerait nos différences, mais un espace politique où l'on pourrait envisager ces différences comme des richesses. Car au fond, militer, c'est avant tout porter une vision de l'avenir, contribuer à bâtir un projet commun. Mais si nos étiquettes militantes nous divisent au point de nous isoler, nous risquons de perdre cette capacité à transformer nos idéaux en actions collectives. En tant que jeunes engagés, nous avons une responsabilité, celle de laisser tomber les étiquettes, de regarder au-delà des affiliations pour voir l'autre, simplement, comme une personne qui, elle aussi, espère un monde meilleur. Alors, aujourd'hui, j'écris ceci pour inviter chaque militant à repenser la manière dont nous nous percevons les uns les autres, à ne pas laisser nos étiquettes dicter nos relations et à saisir chaque occasion de construire des ponts là où, jusque-là, on a dressé des murs. C'est un appel à l'ouverture, à la bienveillance et, surtout, à la collaboration. Car si l'étiquette militante nous divise, elle entrave aussi notre capacité à rassembler, à rêver ensemble et, surtout, à agir pour demain. C'était « Réflexion sur l'engagement politique et l'étiquette militante », un texte de Léa Lacroix, paru le 4 novembre 2024 dans Le Devoir.